deuxième cours.
L'important d'abord, étant donné l'importance du livre d'État dans la philosophie d'Aristote, nous aurons soin de le voir. Je crois que c'est capital. Si on ne comprend pas le livre d'État à la philosophie premier d'Aristote, et je crois que la plupart, je pense à Auban par exemple, c'est parce que de fait ils n'ont pas saisi la place du livre d'État. Ils n'ont pas saisi ce qu'on représentait le livre Zeta dans la philosophie première d'Aristote, que de fait, ils sont retombés dans des perspectives dialectiques. Parce que si le livre Zeta n'existe pas dans la philosophie d'Aristote, on comprend très bien la position de Kant. Vous voyez, c'est très curieux. Mettez entre parenthèses le livre Zeta et puis essayez de comprendre ce que nous avions vu jusque maintenant, et puis ce que nous verrons ensuite à propos de l'acte d'assistance, on s'aperçoit que de fait, c'est le livre d'État qui donne l'acte de structure à toute la pensée de la philosophie première. L'acte et la puissance vont aller plus loin, mais l'acte et la puissance présupposent le point de vue d'assistance, présupposent le point de vue de l'Ouïa. De sorte que ce n'est pas l'acte et la puissance qui donnent la structure à la philosophie première, mais bien le point de vue d'assistance. Alors, je crois qu'il n'est pas mauvais, nous l'avons fait au séminaire, mais je ferai un peu d'une façon différente ici, il n'est pas mauvais de réfléchir un instant sur la question du bien chez Platon. Je crois qu'on pourrait ponctuer de cette manière la philosophie grecque, vous voyez dans quel sens. Le début, avant Socrate, c'est la phusis et le logos. C'est évidemment constamment le dialogue de la physique et du logos. Nature et le point de vue de l'intelligence. Il cherche à comprendre. Donc c'est physique et logos. On peut dire qu'avec Platon, il y a une nouvelle découverte, c'est l'ousia. Je crois que l'ousia est très propre à Platon. Nous essaierons de bien le voir, parce que c'est important à saisir. Que l'ousia est propre à Platon et que Platon saisit l'ousia en vue de mieux saisir l'aïda. C'est-à-dire la force. Vous voyez, vous avez, si vous voulez, pour essayer, je ne connais pas assez le grec, je vais mieux comprendre, n'est-ce pas, phusis et logos. Le logos et la phusis représentent le point de départ de toute la philosophie grecque. La nature, et puis le logos, la raison, c'est très difficile, c'est très difficile, on ne peut pas traduire discours, on ne peut pas traduire raison. On traduit, si vous voulez, le point de vue de l'intelligence qui cherche à comprendre. Ça, c'est le logos. Vous avez ensuite ousia. L'apparition d'ousia me semble être avec Platon. Je dis me semble parce que c'est très, très difficile. Si vous regardez les traités pratiques, vous verrez que le terme ousia est employé deux fois. Mais il est employé dans des fragments qui sont postérieurs. Alors c'est pour ça que je crois fort que ousia me semble être au fond une découverte de la philosophie platonicienne. Et ousia, à ce point de vue-là, conduit vers le point de vue de Heidegger. Évidemment, il y a l'être avant, vous voyez bien. L'être est apparu avec Parmenide. Mais l'être n'est pas quelque chose qui structure. L'être est toujours quelque chose d'ultime, quelque chose vers quoi on tend. Quelque chose... Sauf chez Platon, où ousia et être seront très proches. Le on et ousia seront très proches. Alors l'eidos, c'est la forme idéale, c'est d'une certaine manière ce qui va être l'ultime point de vue. Vous pourriez mettre ça si vous voulez. Le logos existe aussi, que le logos existe comme dialectique, et vous avez au-delà de l'être, l'eidos. L'eidos est l'au-delà de l'être, si je parle l'être est au-dessus de tout. L'être est intermédiaire. L'être est pris comme intermédiaire et comme ousia. Alors, chez Aristote, vous allez trouver ousia également dans le livre Zeta. Donc, l'ousia qu'Aristote va prendre, il l'emprunte à Platon. Ce n'est pas une découverte d'Aristote. Évidemment, Aristote va essayer de saisir ce que c'est que l'ousia, qu'est-ce que c'est qu'exactement la substance, alors que Platon ne s'est pas posé le problème. Donc, il y a là vraiment une réflexion qui est tout à fait caractéristique à la pensée d'Aristote. Mais ce qui va être propre à la pensée d'Aristote et qui va lui permettre ce dépassement à l'égard de Platon, c'est le point de vue de l'acte, qui va être encore le point de vue de l'être. Mais là, Parménide et Aristote vont se retrouver en considérant que l'être est ce qui est terminable. L'être est qui termine. Alors que pour Platon, c'est Heidegger. Faites ce petit plan encore une fois de un chef, c'est pas plus que ça. Il y a un lieu très important dans Platon, je vous y renvoie, sans situer exactement la table. Enfin, c'est très difficile de savoir à quel moment se situe le crapule. Le crapule est une chose difficile à situer comme ça, et il est important parce que c'est de fait le crapule qui va avoir une réflexion sur les noms. Je crois qu'on pourrait mettre un parallèle entre le crapule et le livre Delta d'Aristote. Vous voyez ce que je dis ? Et bien voir la différence entre la perspective du crapule et le livre Delta. Le livre Delta, nous l'avons vu, ce sont les acceptations multiples des termes philosophiques. Le crapule nous donne comme une réflexion sur les noms et les significations des noms. Alors, il y a bien quelque chose, voyez, de semblable. Voici ce qu'il dit. Ainsi, le nom, c'est dans le crapule, donc 388b. Ainsi, le nom est un instrument qui sert à instruire. Onoma ara didascalicon esti organon. L'organon, hein? L'instrument. Le nom est un instrument. Un instrument qui sert justement à transmettre la pensée. Aristote fera le parallélisme entre le nom et la mesure. À la différence, c'est-à-dire le troc, qui est le commerce premier, vous construisez des chaussures, moi je cultive du blé, et nous pouvons faire du commerce. Alors quand de fait le commerce se multiplie, il faut la monnaie. Et la monnaie est un instrument qui est là uniquement pour permettre un commerce qui va un peu plus loin. Eh bien, je crois que la monnaie est le point de vue des noms, le point de vue du langage, pour la perspective d'Aristote comme la perspective de Platon, ce sont des intermédiaires, c'est-à-dire des instruments. Donc le nom est un instrument qui sert à instruire et à distinguer la réalité comme la navette, c'est le tissu. Donc c'est extrêmement joli. La navette, c'est le tissu, et bien le nom, c'est le tissu. Donc le nom va faire la dialectique, et va permettre de pouvoir avoir un tissu. C'est extrêmement bon. Or la navette est un instrument qui va faire un tissu. Alors après, ensuite, 401, B. Nous avons ici l'établissement de certains noms. L'établissement de ces noms dénote clairement pour moi des hommes de ce caractère. Et si l'on examine les noms étrangers à l'Attique, on découvre tout aussi bien ce que veut dire chacun d'eux. Par exemple, ce que nous appelons nous autres Ousia, nous autres, hein, grecs. Ousia, certains l'appellent Essia, et d'autres encore Ousia. Essayez de voir tous les parallèles qui existent entre Ousia, le mot substance. Eh bien, en premier lieu, que Ousia, que l'Ousia des choses, soit appelé Estia. Alors, c'est ce fameux passage de Ousia à Estia qui est intéressant à bien souligner ici, parce que dans la perspective de Platon, ça va nous faire comprendre ce que représente en premier lieu Estia. Donc, eh bien, en premier lieu, que l'essence des choses, donc l'ousia des choses, soit appelée essia, d'après le second de ces mots, voilà qui est logique. Le second de ces mots, c'est essia. Et quand d'autre part, nous désignons, nous, par essia, ce qui participe à l'ousia, en ce sens encore, essia est le nom juste. Car nous-mêmes, semble-t-il, nous appelions enseignement anciennement essia, l'existence d'Ousia. En outre, si l'on est réfléchi à la lumière des sacrifices, on interprétera ainsi la pensée de ceux qui ont établi ces noms, avant tout les dieux, c'est à Estia la première que doivent naturellement sacrifier les hommes qui nommèrent Estia l'essence des choses. Et le caractère sacré, mythologique, lié à Ousia. C'est très important de voir ça, on a vu ça déjà en philosophie grecque anciennement, la découverte des éléments était quelque chose de divin. Je crois que chaque fois que le philosophe découvre quelque chose de nouveau, il considère qu'il y a quelque chose de sacré, qu'on pénètre plus avant dans les secrets qui n'appartiennent qu'aux dieux. Et là, il y a un sacrifice à faire, on voit bien. Quant aux auteurs d'Ousia, cela doit croire à peu près comme Héraclite, que les choses se meurt tout et que rien ne demeure. Donc Estia, vous savez, c'est la déesse qui demeure. on voit ça dans le fait, c'est la géométrie dans le fait à propos du nous, c'est la déesse qui demeure. Et donc c'est l'opposé justement de ce qui ne demeure pas dans le mouvement. Dans le mouvement, rien ne demeure. Tandis que dans la réalité, il y a quelque chose qui demeure. Qu'est-ce qui demeure dans la réalité? C'est l'usia. Donc le sens de l'usia est lié à ce fait que c'est quelque chose qui est au-delà du mouvement et qui demeure. Et c'est très important, je crois, pour ce que nous verrons ensuite, de voir cette première signification de Ouzia, c'est ce qui demeure. C'est lié à la déesse qui demeure. Si vous regardez dans Platon, alors si nous essayons de faire cette petite enquête, encore une fois, rapide, vous verriez que dans le Phédon, je crois que c'est le premier lieu, dans le Phédon où il nous est parlé de Ouzia. Mais Ouzia est parlé dans le Phédon d'une façon qui est encore extrêmement, je dirais, peu précise. Dans le Phédon, Platon montre comment l'Ouzia se découvre à l'intelligence. Ce n'est pas un exposé systématique, c'est sûr, mais c'est quand même quelque chose qui nous montre déjà. L'Ouzia est faite pour l'intelligence, ce qui demeure, ce qui est au-delà du devenir, au-delà de la guinée. Par le fait même, l'Ouzia semble bien s'identifier. Mais on ne peut pas dire que ça s'identifie à la forme, ça conduit vers la forme. Socrate demande à Simias s'il accepte d'affirmer être, eina, quelque chose de juste. De même pour la grandeur, la santé, en un mot pour l'ousia et toutes les autres choses, c'est-à-dire ce qu'est précisément chacune. Donc voyez dans Phédon 65b. Et dans le Phédon également, 65B, 76B et 77A, ce sont les différents lieux, et 78C, ce sont les différents lieux où nous trouvons affirmé l'ousia dans le Phédon. Il est dit par exemple dans 78C, les choses qui sont toujours dans l'identité et qui se comportent toujours de la même manière aux autres, celles-ci sont avant tout vraisemblables. Malissa Eiko. Et elles sont de fait des êtres incomposés. Et alors, pour désigner ces choses-là, il dira Ote et Ouzia. Donc ces choses sont Ouzia. Vous voyez, ces choses qui possèdent au-dedans même leur identité, qui sont Katatota, qui sont Ototo, et qui sont Malissa Eiko. C'est encore lié à l'opinion. Ce n'est pas encore la vision d'intelligence, c'est encore lié à l'opinion. Celles qui sont Malissa Eiko, c'est-à-dire au sommet vraisemblable, qui sont des êtres incomposés, ces réalités sont Ouzia. C'est Ouzia. Cette réalité elle-même dont nous rendons compte dans notre argumentation. Et c'est lié immédiatement à l'égal en soi, le beau en soi, l'être en soi. C'est pas identifié, mais ça annonce. L'Ouzia annonce les réalités prises en soi. Ce n'est pas les réalités prises en soi, mais ça annonce ces réalités-là. 92b. Vous avez également le point de vue de l'ousia qui est lié à OS, c'est-à-dire ce qui est. Donc c'est le premier lieu. Voyez dans le livre de Loriot, L'être et la forme selon Platon, page 21-34, où il souligne justement d'une façon très particulière ce premier lieu de la découverte de l'ousia. Le premier moment où l'ousia est là, Loriot. L'être et la force de l'emplacement. Vous l'avez dans la bibliographie de Platon. Vous avez ensuite le second moment qui me semble important à souligner, c'est dans Phèdre. Phèdre 247, c'est. Ne fait en même temps que dans le banquet où Zia n'existe pas. 210 et, qui serait le lieu où normalement on devrait parler de Zia, dans le banquet où Zia n'est pas nommé. Alors c'est assez curieux de voir que dans le banquet où on a Toan Einai, l'être éternel qui est affirmé, l'Ouzia n'est pas souligné. Tandis qu'au contraire, dans le Père, on souligne, 247, on souligne Ouzia en même temps que l'être pris de façon absolue, l'étant réellement. Ouzia onto Ouzia. Ouzia onto Ouzia. L'étant réellement. Ouzia, c'est l'étant réellement, c'est-à-dire l'être qui, de fait, existe d'une façon absolue. Eh bien, cette réalité qui existe de cette manière, qui est ontos ouza, elle est sans couleur, sans figure, elle ne peut pas être touchée. Celle qui ne peut être contemplée que par le nous de l'âme, auprès de laquelle est le guénin de la science vraie. C'est celle-là qui a ce lieu. Donc voyez, Ousia, si je prends ce lieu du fer, parce que c'est un lieu très significatif et important dans cet aspect de Ousia chez Platon, on voit que Ousia est nommé au moment où il y a la découverte de l'être pris réellement, que seule l'intelligence saisit, alors que le sens saisit le mouvement, la génétique, seule l'intelligence saisit l'Ousia, et que c'est le guénin de la science vraie. C'est le genre de la science vraie. La science vraie ne peut regarder que l'Ousia. La science vraie commence avec la recherche de l'Ousia. Parce que la science vraie est au-delà de la galaxie. Vous avez ensuite dans la République, beaucoup de lieux où l'Ousia apparaît. Je vous renvoie 5, 479, 7, 525b, 525c, où de fait, on passe de la génération vers la vérité de l'Ousia. Donc là encore, on voit le passage de la génétique à l'Ousia. Platon dit la même chose de la géométrie qui oblige l'âme à contempler l'Ousia. La géométrie est un intermédiaire, vous savez bien, pour Platon, c'est un intermédiaire avant d'arriver à la philosophie et la galaxie et la science vraie. Eh bien, de fait, la géométrie va permettre à l'âme de contempler l'Ousia. Il faut passer par la géométrie pour arriver à la contemplation de l'Ousia. 525, 526 est. L'Ousia s'oppose à ce qui naît. Elle est considérée comme ce qui est en haut, le taux à l'eau. 527 b. Donc nous retrouvons dans la République quelque chose de semblable, si vous voulez que l'affirmation du père, c'est que Ousia est présenté comme un être stable, un être que nous pouvons contempler, un être qui est au-delà de la génésie, qui de fait n'est pas le point de vue du mouvement. Dans sa classification des connaissances, Platon précise, la doxa, l'opinion, considère l'intermédiaire entre l'Ousia et le non-être. Si Ousia est pris pour l'être, et même l'être pris d'une manière absolue, donc l'être pris réellement, car l'Ousia est considéré comme l'objet propre de l'intelligence. Platon, du reste, réserve l'appellation d'Ousia aux formes, pas toutes les formes, hein, comme nous verrons, parce que là, le bien est au-dessus. Le bien n'a pas d'Ousia. Enfin, le bien est au-delà de l'Ousia. Il est quelque chose qui décide des femmes. Donc certaines formes auront une Ousia, mais auront pas toutes les formes. Les formes tout à fait les plus élevées seront au-delà de l'Ousia. Alors c'est pourquoi l'Ousia est ce qui atteint vraiment, c'est que vrai, ce qu'atteint vraiment la science, et avant tout la science parfaite, c'est-à-dire la dialectique. Parlant des connaissances nécessaires à un homme, Platon cite la science des nombres, capable, si l'on en use bien, de nous élever jusqu'à l'Ousia. Donc on voit bien comment l'Ousia est comme une espèce d'intermédiaire, comme l'être. Vous vivez avant d'arriver à l'être, avant d'arriver aux formes idéales, vous passez par l'Ousia. Vous passez par l'être pris d'une façon réelle. Il nous dira ceci, l'Ousia a pour objet de devenir l'intelligence pure, l'être. Donc là, c'est toujours la même affirmation que entre l'Ousia et sa Judée. C'est toujours dans la République. La République 7, 534a. Et ce que l'Ousia est au devenir, l'intelligence l'est par rapport à l'opinion. Paradis qui le fera. Ce que considère la dialectique, c'est le haut esti, donc ce qui est, et l'Ousia. On doit comment dire que l'Ousia est l'hypothèse commune qui sert de base aux disciplines scientifiques et à la dialectique. Car l'Ousia n'est pas ce qu'il y a d'ultime, mais vraiment le point de départ, l'intermédiaire, le métaphysique, en vue de la force. Puisque de fait, lorsqu'il découvre le point de vue du bien, il dira que le bien est au-delà de l'Ousia. Il n'y a pas d'Ousia du bien. Vous voyez bien comment ça joue le rôle d'intermédiaire. Je crois qu'on peut. On pourrait également regarder dans le Parménide, 163 D et 141 E. Et dans le suffixe 251 E, nous retrouvons le point de vue de Lousia. Dans le Parménide, je vous cite ce texte. Si l'un est, se peut-il qu'il soit et ne participe pas de Lousia? Donc, Lousia de l'un sera sans être identique à l'un. Alors, Lousia est pris là très nettement comme le point de vue que nous dirions l'essence de l'un. Lousia, je crois qu'il y a cette signification. Vous voyez, c'est l'être qui demeure, c'est l'être qui nous donne l'intelligibilité plénière. Et dans le Parménide, je crois qu'on peut dire que Lousia est là pris comme essence. C'est Lousia de l'un. Lousia de l'un, c'est justement l'intelligence de l'un. Donc, Lousia de l'un sera sans être identique à l'un, car l'un est être, et l'un et un ne sont pas identiques. Quand on dit que l'un est, on signifie qu'il participe de Lousia. L'un et Lousia ne sont pas identiques. Leur sujet seul est le même, l'un qui est. C'est la discussion du Parménide, hein. je vous donne le texte de Platon, c'est extrêmement serré. Autrement dit, il essaie de distinguer l'un de Lousia, et il essaie de montrer que ce qu'il y a de commun entre l'un, entre Lousia et l'un, c'est l'être. Et c'est très curieux de voir cette affirmation qui est donnée là. Donc c'est le point de vue de Lousia qui va être du côté de l'un, mais on ne peut pas identifier l'un et Lousia. Voir aussi 143 AB, nous disons que l'un participe de Lousia parce qu'il est. Bio est-il. Autre est nécessairement Lousia de son être. Autre lui-même, puisque l'un n'est pas Lousia, mais comme un participe de Lousia. Donc l'un participe de Lousia. Vous voyez, c'est au fond très difficile à bien saisir ce que représente Lousia. Et je crois qu'une fois qu'on a compris que Lousia était contemporaine de l'être pris réellement, je ne crois pas qu'il y a plus. C'est l'être pris réellement, c'est-à-dire ce qui est au-delà du mouvement, au-delà du devenir. Alors, l'être pris réellement n'est pas les formes idéales derrière. Le bien est là. Alors, s'il peut identifier de temps en temps telle ou telle forme idéale à Lydia, il ne le fait jamais lorsqu'il s'agit de l'un et lorsqu'il s'agit du bien. Donc, je ne veux pas avancer plus là dans cette perspective, mais ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que Platon, et ça je crois que c'est important, parce qu'on dit tout le temps que Lousia, c'est la découverte d'Aristote, je ne crois qu'il faut quand même remettre les choses dans leur juste perspective, et dire que Lousia est propre à la philosophie de Platon. Hein? Que Lousia est propre à la philosophie de Platon, et que Lousia étant propre à la philosophie de Platon, nous fait comprendre un aspect très important de la philosophie de Platon, c'est-à-dire la recherche de l'intermédiaire par où nous pourrons saisir les formes du bien. Je crois que la découverte de Lousia chez Platon, c'est d'essayer de voir le lien qui existe entre les formes idéales et la vie, la guérison. Le devenir, c'est l'opinion. Le devenir, c'est l'opinion, et nous n'avons pas de science du devenir. Une réminiscence des formes idéales. Mais comment passer de la génétique aux formes idéales, c'est l'être. C'est l'être réel. Et l'être réel s'identifie à Lousia. Et c'est pour ça que Lousia, c'est ce qui demeure. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que Lousia est comme un métaxu de la connaissance du monde. Le métaxu qui permet de voir le lien qui existe entre l'opinion et la contemplation. Platon ne dit pas qu'on contemple Lousia. Je ne crois pas. Dans aucun lieu. Tandis qu'il dit qu'on contemple les formes idéales. Mais il dit que c'est le nous qui saisit Lousia. Et donc je crois qu'on peut dire, vous voyez, que Lousia, dans la perspective de Platon, c'est vraiment le métaxu, l'intermédiaire, qui permet de voir le lien entre les formes idéales et la guérison. À ce point de vue-là, Lousia serait métaxu analogue à Eros. Ce serait les deux grands métaxus de la philosophie de Platon. Si la philosophie de Platon est une philosophie dialectique, les métaxus ont un rôle extrêmement important. Puisque c'est les métaxus qui nous permettent de pénétrer vraiment dans ce que représente la pensée dialectique. Alors, à ce point de vue-là, Eros, le point de vue de l'amour et le point de vue de la substance, jouent deux rôles parallèles dans la philosophie platonique. entrée et joue un rôle donc extrêmement important. Ce n'est pas du tout quelque chose de secondaire. C'est quelque chose d'essentiel, la philosophie de Platon. Encore une fois, c'est une hypothèse que je ne crois pas que ça ait été explicité. Mais ça me semble très important d'expliciter. On voit surtout Platon du côté du terme, on voit Platon du côté de la génétique, mais l'intermédiaire intelligible entre les deux me semble très important à souligner que c'est justement le point de vue de Platon. Alors Platon tout de suite à Aristote, puisque Aristote va être étant disciple de Platon, donc a saisi l'ousia de Platon, a saisi l'importance de l'ousia de Platon dans sa dialectique, qu'est-ce que va en faire Aristote? Alors je crois qu'il faut d'abord, c'est important à souligner, avant d'entrer encore une fois le livre Zeta, regardons un autre lieu très important où Aristote parle de l'ousia. C'est dans les catégories. Je ne soulève pas du problème de savoir si les catégories sont d'Aristote ou pas d'Aristote. Prenons-le, si vous voulez, comme un livre parallèle. Même si ce n'est pas d'Aristote, c'est quand même utile de le regarder. Étant donné qu'on considère que si ce n'est pas d'Aristote, c'est un disciple d'Aristote et que ça correspond vraiment à quelque chose que Aristote lui-même, d'une certaine manière, aurait découvert. Et je crois que c'est très important pour saisir le livre Zeta de mettre le parallélisme toujours avec les catégories. C'est très important de voir ça. Dans les catégories, vous savez que le livre des catégories d'Aristote est considéré comme un livre de logique. N'est-ce pas? C'est toujours considéré dans le message, c'est une certification qu'on a faite. Les catégories d'Aristote peuvent être quelque chose de très particulier, puisque c'est le souci de donner les termes simples. Donc c'est le souci d'arriver à préciser les termes les plus premiers, tout à fait simples. Non pas du tout comme dans le livre Delta, où l'on donne des significations multiples de ces termes, mais on essaie de comprendre l'acception première de ces termes. La première catégorie, ce sera la substance. Ousia. Donc, ce n'est pas du tout la perspective, encore une fois, des métaphysiques que vous allez tout de suite comprendre. La substance, au sens le plus fondamental, donc au sens pris d'une façon première, proto, au sens principal, c'est ce qui n'est ni affirmé d'un sujet, ni dans un sujet. Tous ceux qui ont étudié la substance, il y en a plusieurs parmi vous qui l'ont fait, voient que c'est immédiatement le climat tel que Aristote regarde la substance dans cette perspective. Je dis ça pour les autres aussi, c'est intéressant de voir le lien avec la perspective de comment Aristote a commenté. Aristote, il a pris d'abord, en premier lieu, le point de vue des catégories. Donc la substance, au sens fondamental et premier, c'est ce qui n'est ni affirmé d'un sujet, ni dans un sujet. Vous voyez qu'on définit la substance par deux négations. Et deux négations qui sont deux négations d'ordre logique, de fonction logique. C'est-à-dire être affirmé, la prédication, et le point de vue d'être dans un sujet. C'est encore, donc, deux fonctions logiques. On définit la substance par la négation de deux fonctions logiques. Par exemple, l'homme individuel ou le cheval individuel. Mais on appelle substance seconde. Alors, voyez tout de suite, à l'intérieur de la substance, on met une substance première et une substance seconde. Distinction que nous ne verrons absolument pas dans le livre Zeta. Il pose des problèmes. C'est toujours intéressant de se poser des problèmes. C'est quand même intéressant de mettre le parallélisme entre les deux. On appelle substance seconde les espèces dans lesquelles les substances prises au sens premier sont contenues. Vous voyez bien ce que c'est qu'une espèce. Une espèce, c'est par exemple or. Comparativement à animal qui est un genre. Espèce et genre, c'est ce qu'on appelle des prédicables. C'est-à-dire que de fait, ce sont des êtres logiques, ce ne sont pas des êtres métaphysiques. Enfin, l'espèce n'est pas un être métaphysique. C'est pour ça que quand on parle de l'évolution des espèces, en disant que l'évolution des espèces, ça n'a aucun sens, vous voyez, au plan expression. Quand on dit que la scolastique était contraire à l'évolution des espèces, on connaît dans la course que l'espèce est un terme logique. Donc le terme logique, comme terme logique, ne peut pas avoir la vie. Alors il faudrait parler de la nature qui est logique. C'est tout à fait différent, c'est très très important de voir ça. Parce que ce sont ces confusions-là qu'on a fait le minimum. le nominalisme a fait des grosses confusions d'introduire des termes logiques dans un point de vue proprement de philosophie de la nature. Alors, comprenez bien la différence qui existe entre l'espèce et la nature. Il ne faut pas confondre les deux. Ou l'espèce et l'essence. L'essence est un terme métaphysique, l'espèce est un terme logique. Quand on dit que c'est un terme logique, on veut dire que c'est justement quelque chose qui ne peut se comprendre qu'en fonction de l'opération de l'intelligence. C'est l'intelligence qui, en connaissant les réalités, les transforme, parce qu'elle les abstrait. Alors elle connaît les choses selon certaines modalités particulières. Alors elle classe les choses dans un genre. Elle classe les choses dans une espèce. Donc l'espèce n'est pas quelque chose qui existe dans la réalité, ça n'existe que dans l'intelligence. C'est ça qu'elle ne peut pas évoluer. Elle n'existe que dans l'intelligence, l'espèce, comme telle. Et le genre aussi n'existe que dans la réalité. Seule la nature existe dans la réalité, comme un principe réel. Tandis qu'au contraire, l'espèce et le genre ne sont pas des principes réels. Ce sont des êtres de raison. Vous voyez ça, je crois que c'est très très important de bien distinguer, parce qu'à partir du nominalisme, on a fait la confusion. Bon, on a fait la confusion. Ces expressions qui sont des expressions très spécifiques, qui ont une signification très très précise. Donc, voyez bien, la substance seconde, pour Aristote, selon les catégories. La substance seconde, ce sont les espèces dans lesquelles les substances prises au premier sens sont contenues. Aux espèces, il faut ajouter les genres de ces espèces. Par exemple, l'homme individuel, rendu d'une espèce, qui est l'homme. Et le genre de cette espèce, c'est animal. Donc vous avez cette manière très simple de regarder ces choses. La substance première, Aristote appelle ici substance première, la substance prise au sens absolu, le todesi, c'est l'individu. C'est l'individu, c'est le singulier, c'est la substance première. L'individu et le singulier, par définition, qui sont justement l'individu, il ne peut pas exister dans un sujet ni être attribué à autre chose. C'est quelque chose qui est tout à fait premier. Autrement dit, ça va jouer le rôle, au point de vue logique, du sujet. Au point de vue logique, c'est le rôle du sujet. C'est ce qui est capable de supporter toutes les autres attributions. Donc ça, c'est la substance première, le todesi. Quant à la substance seconde, Aristote dit l'espèce et le genre. L'espèce et le genre, voyez bien, ce n'est pas l'individu, c'est justement l'homme. C'est-à-dire l'homme pris d'une manière abstraite. Ou l'animal et le genre de l'homme, pris de façon abstraite. Donc l'espèce et le genre n'existent pas dans la réalité. L'espèce et le genre n'existent que dans mon intelligence. N'existe dans la réalité que les individus. Alors vous voyez que cette perspective est très très particulière. Nous voyons substance d'un point de vue logique. C'est point de vue logique. Nous dirigeons la substance d'un point de vue logique. Et nous définissons la substance en fonction de la logique. Pas un seul terme métaphysique. Mais uniquement la logique. Nous définissons la substance par le point de vue du sujet. En disant que c'est le sujet radical, puisque ce n'est attribué à rien et ça ne peut pas être dans un sujet. Nous la définissons ensuite en disant que c'est l'espèce et le genre. L'espèce et le genre, c'est ce qui est essentiellement attribuable. Vous voyez bien, l'espèce et le genre, c'est l'universel. L'universel, c'est ce qui est capable d'être attribué. Donc l'espèce et le genre, c'est ce qui est essentiellement attribuable. Alors vous avez cette chose très curieuse, que la substance va impliquer ce qui n'est absolument pas attribuable et ce qui est essentiellement attribuable. C'est très ennuyeux que le même mot exprime deux choses tout à fait différentes, diamétralement opposées. C'est pas, je reprends pour que ça, il faut bien saisir, c'est très important, parce que pour saisir en fait toutes les confusions que j'ai faites, il faut saisir le point de départ. Donc il faut comprendre qu'ici, la substance première, c'est essentiellement ce qui n'est pas attribuable, puisque c'est le sujet. C'est le sujet radical. Il peut y avoir des sujets de second, mais c'est le sujet radical, puisque ça ne peut pas être dans un sujet. Si ça ne peut pas être dans un sujet, c'est donc le sujet radical. Tout reviendra à la substance première. Donc c'est essentiellement ce qui n'est pas attribuable. Tandis qu'au contraire, la substance seconde, tout ce que c'est l'espèce et le genre, c'est ce qui est essentiellement attribuable. Dans leur fonction. Donc, nous saisissons là les deux aspects ultimes des fonctions logiques dans la perspective de la logique d'Aristote, dans la perspective de l'organome. Les deux fonctions extrêmes, la fonction sujet, la fonction attribut. La fonction sujet au sens le plus fort, c'est la substance première. L'attribut au sens le plus fort, c'est l'espèce. C'est l'espèce et l'attribut le sens le plus fort. Donc c'est le prédicable par excellence, c'est l'espèce. C'est le prédicable parfait, c'est l'espèce. Alors donc là, les deux extrêmes de toute la logique d'Aristote, et c'est peut-être à cause de cela qu'on rappelle le point de vue de la substance. Mais il faudra revenir là-dessus. Toute la logique d'Aristote présuppose sa métaphysique, il ne faut pas l'oublier. Alors on comprend comment, de fait, et toute sa métaphysique repose sur la substance. Nous allons voir ici le joint entre la métaphysique et le point de vue de la logique, par cette division première des catégories, substance première, substance seconde. Ensuite, des choses moins importantes, il montre par le fait même qu'il y a du plus et du moins du côté substance seconde, parce que l'espèce est plus substance que le genre. Donc il y a du plus et du moins. Que l'espèce est plus substance seconde que le genre. La substance première, il n'y a pas de plus et de moins, c'est un absolu. Le sujet, c'est l'absolu, l'individu, c'est un absolu. Tandis qu'au contraire, dès que vous êtes dans la substance seconde, vous pouvez dire qu'il y a quelque chose qui est plus substance que quelque chose qui est moins substance. L'espèce est plus substance seconde que le genre. Ensuite, il traite de propriétés particulières de la substance. C'est intéressant à lire cela. Ceux qui ont un peu de courage et qui veulent bien comprendre le livre des sages, je les invite à regarder et à lire les catégories. Il faut avoir lu les catégories d'Aristote dans sa vie philosophique, hein, parce que c'est absolument impossible de ne pas avoir lu les catégories d'Aristote au point de vue philosophique. Donc c'est très important de les... Alors profitez de l'occasion, mais ça c'est une occasion très, très bonne pour lire les catégories, pour lire au moins la première catégorie qui est la catégorie de la substance. Parce que ça va nous permettre de mieux saisir ce qu'on représente le livre des sages. Évidemment, on peut faire l'inverse, on peut voir le livre de Zeta, c'est relire les catégories. Mais puisque nous étudions le livre de Zeta, c'est les catégories que je vous donne en premier lieu, c'est beaucoup plus facile à lire. Hein. Les catégories, c'est quand même assez facile à lire. Je ne dis pas qu'on les comprend. C'est facile à lire parce que c'est quand même quelque chose qui, à première vue, nous semble très intelligible. Tandis que le livre de Zeta, à première vue, ne nous semble pas très intelligible. Bon. Alors, c'est plus facile, il faut donc le lire. Alors, vous verrez les propriétés successivement de la substance, qui montre comment la substance est capable de porter les contraintes. C'est propre de la substance. Vous pourriez regarder aussi, parce que c'est très intéressant comme petite enquête, vous pourriez regarder aussi comment le mot substance est employé dans la philosophie première et dans le De Anima. Parce que de fait, nous retrouvons le mot substance dans la philosophie première et dans le De Anima. Dans la philosophie première, la substance est employée pour être le sujet, hypokeimenon. C'est le sujet. C'est la réalité du sujet du mouvement. Ce qui, de fait, demeure au-delà du mouvement. Et dans le De Anima, Aristote dit que l'âme est substance. C'est aussi important de voir qu'il définit l'âme comme substance. Or, il distingue l'âme du corps. Donc, la substance est prise là, du côté du principe, selon la forme. Il identifie âme et substance, n'est-ce pas ? Alors, dans la philosophie première, Aristote ne cherche pas à savoir ce que c'est que la substance, il regarde le point de vue de la nature. Mais comme, de fait, il emploie le mot substance sans préciser, il peut très bien employer le mot substance pour être sujet. Tandis qu'au contraire, dans le livre Zeta, il y a un effort d'essayer de préciser la substance en fonction de l'être. Et c'est cela qui est la lumière propre du livre Zeta. Nous sommes en philosophie première tout se comprend du point de vue de l'être. Nous allons essayer de comprendre donc dans ce livre Zeta ce qu'est la substance du point de vue de l'être. Non plus du point de vue du mouvement, non plus du point de vue de la vie, non plus du point de vue logique, mais du point de vue de l'être. Vous voyez, il y a donc là une précision qu'il faut bien essayer de saisir si on veut comprendre l'analyse du livre Aristote. La substance est un mot qu'Aristote utilise de diverses manières. La substance est un mot qu'Aristote utilise dans des écrits qui ne sont pas la métaphysique, mais en métaphysique, il considère la substance pour elle-même. Il ne le fait dans aucun autre écrit, sauf, si vous voulez, dans les catégories, je regarde la première catégorie, qui est la substance. Autrement, se faire le « ousia ». Tandis qu'au contraire, ici, il essaie de préciser ce que c'est que l'ousia par rapport à l'être. Alors, nous commencerons la fois prochaine cette étude. Vous pouvez essayer, dans la mesure où vous le pouvez, parce que je crois que ça vaut la peine, de commencer, de lire au moins le chapitre qui restitue, si vous voulez, avant le cours suivant. Parce qu'autrement, je risquerais de faire complètement les états. Sur de l'âme et ses propriétés, on ne regarde plus que le motif. En réalité, tout ce qui est parent de l'âme a existé avant ce qui appartient au corps. Il faut donc découvrir la priorité de l'âme sur le corps. Première chose à faire. Une fois qu'on découvre la priorité de l'âme sur le corps, on peut par l'âme découvrir l'existence des dieux. Vous voyez, la voie intérieure. L'âme qui régit l'univers et le soleil, lui imprimant un mouvement circulaire, demande d'être regardée comme une divinité. Donc l'univers est plein de dieux. Donc vous voyez, la première découverte, c'est découvrir que l'âme est au-dessus de l'univers sensible. 899 ans. Il faut ensuite montrer que ces dieux, immanents à l'univers, s'occupent des hommes. Voici le point de départ. Si tu crois qu'il y a des dieux, c'est sans doute qu'une sorte d'intimité entre leur nature et la tienne te porte à les honorer et à croire leur existence. Mais voyant le désordre et ne voulant pas accuser les dieux, on conclut qu'ils ne s'occupent pas des hommes. Platon répond en s'appuyant sur les perceptions. Étant parfait en tout point, il s'occupe de l'univers entier avec un soin qui leur est propre. C'est toujours le problème du mal. Le problème du mal est là pour montrer que si les dieux sont parfaits, le vilain est très net, ou il s'occupe des hommes, ou il s'occupe de l'univers. S'il s'en occupe, il devrait supprimer le mal. Si c'est une maladie, ça vaut qu'on occupe mal. Et s'il s'en occupe pas, alors ça prouve que bon, ils ne sont pas des dieux. Parce que bon, ça prouve qu'ils n'aiment pas l'univers. Vous voyez, le dilemme poussé à l'extrême au point de vue du gouvernement de Dieu.
Huitième cours.
On va tout de suite dès ce premier chapitre. Je crois que le premier chapitre du livre des Détails est très important parce qu'il nous donne d'une manière extrêmement simple, directe, ce que représente toute l'orientation du livre. Enfin, toute l'orientation du livre sera vue après. Aristote commence par rappeler donc que l'être tourne ce qui est et dit polakos. Oui, c'est très curieux comme manière d'introduire la chose. Il introduit la chose en dépendant de ce qu'il a dit précédemment par rapport à l'être qui est dit de plusieurs façons dans le livre Gamma. Nous avions vu que le livre Gamma est de fait un livre critique, de sorte qu'on a l'impression qu'Aristote a introduit ce livre Zeta par un point de vue critique. Vous voyez bien, une réflexion critique. Autrement dit, on a déjà vu que l'être se dit de multiples manières. Legetare. Il faut bien voir ce que ça représente du reste legetare. L'être est dit de multiples manières. Eh bien, si l'être est dit de multiples manières, la première, c'est le tiesti, qui signifie l'ousia. Voilà ce qu'il nous dit immédiatement. Il rappelle la diversité des manières, mais au fond, c'est le TST qui signifie l'ousia. La première conclusion est donc celle-ci. En prenant l'être se dit de multiples manières, c'est pas la peine d'insister là-dessus, nous l'avons déjà vu souvent, mais la conclusion qu'il retient ici, c'est que la première, au sens fort, toutes les autres sont relatives à celle-là, la première manière d'accepter l'être, c'est donc le TST, le cœur. Qui signifie l'ousia. Le qu'est signifie l'ousia. Il exprime l'ousia. Donc Aristote maintient ici le lien que lorsqu'il s'agit de regarder la multiplication d'accepter l'être, le tiesti signifie l'ousia. Il ne dit pas égal l'ousia et l'ousia ne signifie l'ousia. Toutes les autres acceptations sont relatives à cette première et le langage est là pour l'attester. Donc première affirmation, nous devons chercher l'ousia dans la ligne du tiesti. Et le tiesti correspond donc par rapport au toam, à la donnée première, le tiesti correspond à la première acceptation du toam. Le toam est pris en premier lieu comme tiesti. Le toam est pris en second lieu par la quantité, la qualité et tous les autres, enfin, qu'on appelle les prédicaments. La division de l'être dans les différentes catégories. C'est la division de l'être dans les différentes catégories. La première, c'est le tiesti qui signifie l'ousia. Bon. Deuxième affirmation, c'est affirmé tout simplement comme ça. Il faut prendre brutalement comme une ousia. Ça c'est brutal, mais c'est comme ça. Brutal parce que ça présuppose, le livre d'Amma, ça présuppose tout un ensemble. Deuxième affirmation, ça part d'une objection. On écoute l'aporie, marcher, être en bonne santé, n'est-il pas aussi une substance? Vous dites que pour la substance, selon le langage, c'est le tiesti, donc quelque chose qui possède une certaine autonomie, les autres sont irrelatifs à l'ousia. Les autres sont irrelatifs à la substance. Mais alors, vous traitez l'objection, mais alors, au fond, marcher, être en bonne santé, n'est-il pas quelque chose de premier? Je crois qu'Aristote souligne là quelque chose de très très important, c'est que notre langage, donc notre langage qui exprime notre pensée, notre langage substantifie les choses. Nous avons une maladie de substancier toutes choses. Enfin, la blancheur, toujours les choses abstraites. Les choses abstraites, quand on regarde la différence du concret et de l'abstrait, l'abstrait, c'est qu'on projette et qu'on substantifie. C'est-à-dire qu'on donne une autonomie. Je crois que c'est très important de souligner ça dès le point de départ, de voir, faisons attention, nous cherchons l'ousia par rapport à l'être. Nous ne cherchons pas du tout l'ousia par rapport à la pensée. Par rapport à la pensée, on substantifie les choses. Vous pouvez parler de la blancheur. La blancheur, d'une certaine manière, elle est capable de jouer le rôle de substance dans l'ordre de la pensée. Dans l'ordre de la pensée, vous substantiez les choses. Et c'est pour ça qu'immédiatement Aristote souligne, en réalité, ce n'est pas marcher,